17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, merci de nous retrouver dans ces grands témoins aujourd'hui, Juliette Méadel. Bonjour Juliette.
Bonjour Nasser.
Ravi et merci d'être là. Juliette Méadel, vous êtes ancienne ministre et là, vous êtes aujourd'hui avec une casquette, c'est celle de candidate aux élections européennes sur la liste des radicaux de gauche dont le président est Guillaume Lacroix, qui d'ailleurs est tête de liste, et vous, vous en êtes son porte-parole et je dirais qu'il a beaucoup de chance. Donc vous êtes candidate aux élections européennes et dans votre livre formidable, que je recommande à tout le monde, un impérieux besoin d'agir aux éditions de l'Observatoire. Vous dites que notre Europe a mal vieilli, notre Europe. Depuis une vingtaine d'années, elle n'a pas su tirer les leçons du non au traité constitutionnel européen. Et ses orientations politiques se sont éloignées du projet des pères fondateurs, néolibérales, technocratiques, peu protectrices de ses ressortissants. L'Europe est devenue le révélateur de l'affaiblissement des structures publiques et de l'incapacité de la République française à tenir sa promesse d'égalité et de fraternité. C'est un jugement sévère, ça.
C'est un jugement d'une Européenne convaincue, d'une Européenne déçue, d'une Européenne triste de ce qu'est devenu notre projet, celui des pères fondateurs. Moi, vous savez, je crois beaucoup qu'aujourd'hui, on est dans une situation où la France se délite. Et elle se délite parce qu'il y a une crise, une espèce de crise identitaire qui s'exprime tous les jours. Il n'a qu'à voir là, à l'instant même, devant une grande école, Sciences Po, dans Paris, vous avez des propos extrêmes d'une opposition entre les tenants d'une forme de racisme d'extrême droite et les tenants d'une forme de racisme inversé d'extrême gauche ou d'antisémitisme. Pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui ? C'est ça la vraie question. Alors avec cette liste-là, dont la tête de liste est Guillaume Lacroix, c'est une liste qui s'appelle Europe, territoire, écologie. Il y a plein de collectifs citoyens. Par exemple, il y a un parti qui est le parti des régionalistes, très ancré dans nos territoires, qui prône l'écoute davantage des langues régionales.
Quand on dit régionaliste, c'est pas péjoratif, c'est avec le côté positif des choses.
Exactement.
Ce que les régions apportent au pays, à la nation, de par leur langue, de par leur terroir, de par leur économie.
Et leur spécificité.
Et leur talent.
Et leur talent et leur ancrage, qui néanmoins s'inscrit dans l'État, puisque les radicaux de gauche, traditionnellement, et c'est aussi mon orientation politique, c'est l'idée qu'il y a un État fort qui permet d'assurer l'égalité, justement, enfin en tout cas d'essayer d'assurer l'égalité entre les territoires.
On peut peut-être essayer d'expliquer ce que c'est que les radicaux de gauche. C'est une vieille tradition politique française qui s'est fondée un peu sur les conquêtes sociales et qui s'est adossée aux jeunesses chrétiennes, aux jeunesses ouvrières chrétiennes, et qui a fait qui a élaboré un programme, un concept sur l'humanisme, la solidarité, sur les valeurs. C'est un parti qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui est bien enraciné dans les territoires.
Oui, alors c'est un parti que vous avez raison de le mentionner, qui a une très longue histoire, avec d'illustres membres, Jean Moulin, Mendès France, Clémenceau. Aujourd'hui, les radicaux de gauche, c'est un parti qui est caractérisé par la laïcité, une implantation territoriale forte, qui a eu des ministres. J'étais avec Jean-Michel Baylette, membre du gouvernement sous François Hollande, et qui prône, c'est très très important, l'égalité et l'équité. C'est-à-dire que c'est cette idée majeure selon laquelle l'État doit intervenir pour lutter contre les inégalités entre les territoires.
Il y a tout un débat sur l'égalité, etc. Mais en fait, si je comprends bien, l'équité, c'est la meilleure façon de lutter contre l'égalitarisme. C'est-à-dire que c'est l'équité permet d'éviter les faux fuyants, les bavures. L'équité permet de construire la vraie égalité. C'est un peu ça.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce que nous prenons, nous, c'est un État fort qui aide les citoyens à vivre mieux et qui fait que vous habitiez dans le Val-d'Oise, dans la Creuse, quel que soit votre lieu d'habitation, vous devez avoir accès aux mêmes services publics. Pour ça, il faut que l'État soit capable de mettre plus à ceux qui ont moins. Si par exemple vous n'avez pas accès à l'hôpital parce que vous êtes dans une zone rurale où il y a des déserts et où l'hôpital est loin, eh bien l'État doit mettre en place un moyen de transport pour vous aider. Donc forcément l'habitant de la Creuse, il aura accès à plus de transports pour aller à l'hôpital, mais il faudra l'aider plus parce qu'il est plus loin du service public. Vous voyez, c'est tout le problème, c'est ce que je dénonce dans le livre. L'Europe a fait peser sur nous une obligation de baisse de la dépense publique et les États n'ont pas bien géré cette obligation et ont, hélas, détricoter une partie du service public qui aujourd'hui n'arrive plus à faire face à la demande. On a des problèmes d'accès à l'école, on a des problèmes d'accès à l'hôpital, et ça, c'est ce qui nous délite. Donc, la liste que nous portons, avec les radicaux de gauche, avec aussi d'autres collectifs, hein, il y a Volt, qui est un parti européen, cette liste-là, elle dit d'abord, il faut que l'État soit capable de donner à chacun de ses citoyens un accès au service public. Le service public, c'est aussi une notion européenne. Ça n'est pas qu'une notion française. Et l'Europe doit nous aider à financer nos services publics. Par exemple, on dit, nous, quand on met un euro dans l'éducation, c'est un investissement. Ça ne doit pas être comptabilisé dans nos règles budgétaires. Et on ne doit pas être sanctionné parce qu'on a dépassé le déficit de Maastricht en raison d'un investissement dans l'éducation. Parce qu'un investissement, ce n'est pas une dépense. Un investissement, c'est on construit pour l'avenir. Donc ça ne doit pas être pénalisé. En termes de normes budgétaires, on ne doit pas nous taper dessus parce qu'on dépense trop de cette manière-là. C'est un investissement. Donc, c'est essentiel et c'est le projet qu'on porte. C'est-à-dire que demain, le service public, c'est le patrimoine de tous ceux qui n'en ont pas.
Pour montrer que vous n'avez pas d'ornière et que vous ne regardez pas que votre nombril et que vous n'êtes pas dans une stratégie de citadelle assiégée, vous vous êtes entouré, vous l'avez cité à l'instant, d'un parti Volt qui est un parti transnational européen, c'est-à-dire qu'il y a une fraternité transeuropéenne,
oui.
Il y a une conscience européenne, mais on voit quand même que l'Europe a du mal à construire, par exemple, une protection sociale sur toute l'Europe. On voit bien qu'il y a du mal, parce qu'il y a des hiérarchies, des différences entre les différents pays. On voit bien que l'Europe aussi a un problème avec la façon d'accueillir l'immigration, hein, avec l'ensemble des réfugiés, puis que l'Europe aussi a du mal à construire une défense commune. Donc, comment vous avancez là-dessus?
Alors, Volt est un parti très intéressant. Ils ont 30 000 adhérents, ils sont implantés partout en Europe. L'idée, c'est de dire qu'on a besoin de s'unir, notamment sur la défense, pour peser à l'échelle mondiale. Et pour ça, faut aller plus vite. Faut déjà faire partager cette idée à l'européen. Ça veut pas dire qu'on va transférer notre souveraineté à Bruxelles, mais ça veut dire qu'il y a des sujets sur lesquels il faut qu'on soit fort. Par exemple, nous, on propose un Airbus du médicament, un Airbus de la recherche en santé, pour assurer la souveraineté en matière sanitaire. Et sur la défense, vous avez raison de le mentionner, c'est essentiel. Aujourd'hui, on a les États-Unis, et en particulier Trump, s'il est élu, qui ne veut plus continuer à payer la défense européenne dans le cadre de l'OTAN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que l'Europe, petit à petit, se prépare à se défendre toute seule, sans avoir besoin des Américains. Et ce que nous proposons, nous, c'est de dire que dans le cadre de l'OTAN, nous proposons de travailler sur un pilier européen de la défense. Ça signifie que tous les pays qui le souhaitent, et qui sont prêts à le faire, et pas que la France, qui est toujours celle qui paye pour les autres, tous les pays doivent s'unir pour petit à petit préparer une convergence sur nos armements, une convergence sur le renseignement. Parce que le monde est de plus en plus dangereux, parce que nous voyons des poussées qui nous viennent notamment de la Chine contre nos valeurs de démocratie. Nous avons aussi évidemment la situation au Moyen-Orient qui est explosive. On ne sait pas comment tout ça va tourner. Il faut qu'en Europe, on soit capable de défendre nos valeurs, nos principes, nos territoires et puis notre indépendance.
Oui, mais en même temps, c'est très compliqué. On l'a vu d'ailleurs au moment de la guerre Iran-Irak où il y avait Jacques Chirac qui était président. On voit des gens qui sont avec les États-Unis, des gens qui sont plutôt sur une position à l'époque qui était française, des gens qui sont sur une position neutre. Et dans tout ça, on a du mal, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de cohérence. Comment vous allez gérer ces cohérences de ceux qui sont complètement en allégeance avec l'Empire, avec le maître de l'Empire qui est les États-Unis, d'autres qui ont une position un peu plus retenue, un peu plus personnelle, comme la France ou l'Italie. Comment les gens ont du mal à comprendre quand même.
En fait, il faut distinguer deux périodes. Il y a tout de suite là, immédiatement. Aujourd'hui, si on a besoin de se défendre, on a besoin des États-Unis. Ça, c'est certain. Donc, il ne s'agit pas de dire on sort de l'OTAN et puis on va se débrouiller tout seul. Non, on n'est pas capable de le faire. Bon. Donc, tout de
Est-ce
suite
que
là.
Est-ce que l'Europe est membre de l'Empire?
Pour le moment.
Il y a un empire qui. Il y a les États-Unis, l'Australie, le Canada. Est-ce que l'Europe est membre de. Est-ce que c'est un satellite de cet empire?
Non, l'Europe a son identité, son histoire. Le général de Gaulle a quand même très, très bien incarné. la force de la France aussi, hein, la politique de la chaise vide, ça a quand même aussi permis à la France de faire valoir ses principes du temps du général de Gaulle. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une situation différente. La France est le pays qui est le plus doté en termes de défense, et c'est souvent nous qui prenons l'initiative d'intervenir à l'étranger. François Hollande avait essayé d'intervenir en Syrie en 2013, n'a pas été suivi par Barack Obama, hélas, mais c'est la France qui est allée lutter contre le terrorisme islamiste, notamment dans un certain nombre d'opérations en Afrique et aussi au Moyen-Orient. Bon, mais est-ce qu'on peut continuer tout seul, Nasser Kétan? Non, la France peut pas toute seule défendre l'Europe. On n'y arrivera pas. Sauf que, on peut prendre l'initiative de construire petit à petit avec ceux qui voudront, peut-être les Anglais, peut-être les Allemands quand ils auront une armée, peut-être un certain nombre de pays d'Europe du Nord, la Finlande, la Suède, qui sont en train de s'armer davantage. Petit à petit, nous allons construire avec les pays qui en ont les moyens financiers et les moyens politiques des accords pour nous défendre. Et c'est comme ça que nous acquérons notre indépendance stratégique.
Mais est-ce qu'on n'est pas en train de nous préparer des lendemains qui déchantent? Je m'explique, il y a les Jeux Olympiques, qui va être une très belle fête. Et après, est-ce qu'on n'est pas en train de nous préparer une économie de guerre, une stratégie de guerre, etc. Donc, on a quand même le sentiment que, parce que là, il y a des économies qui se font partout, sur la santé, sur le logement, sur les différentes aides, etc. On voit bien que le gouvernement rogne un tas de prestations sociales, etc. Et que se développe une stratégie de fabrication de munitions, puisque là, du côté de Bordeaux, on crée aussi une grande structure pour fabriquer des munitions. Est-ce qu'on ne nous prépare pas des lendemains qui déchantent après les élections, après les Jeux Olympiques?
Vous savez que ce que dit l'adage en latin, hein, si tu veux la paix, prépare la guerre. On est dans un monde aujourd'hui où notre système et nos valeurs sont mis en cause. Voilà, c'est un fait. Donc il faut bien qu'on se défende. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on doit mettre tout notre budget dans l'effort de guerre? Non, je ne le crois pas. Il faut faire des investissements intelligents, stratégiques, mais il faut aussi se trouver des alliés. Si on se met à plusieurs, c'est le sens de notre projet, hein, européen dans le cadre de ces élections, si on trouve des alliances, pour le moment dans le cadre de l'OTAN, on dépensera moins et on sera plus efficace. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que nous pensons qu'aujourd'hui, c'est indispensable d'investir dans l'éducation, dans la santé, dans nos services publics pour que la France se redresse, retrouve confiance en elle. Ces dépenses-là ne doivent pas être comptabilisées dans le cadre des déficits de Maastricht, mais doivent être considérées comme des investissements d'avenir.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan.
Oui, grand témoin Juliette Méadel, qui est la porte-parole des radicaux de gauche, de la liste portée par Guillaume Lacroix, qui est tête de liste, et Juliette Méadel, on est la porte-parole, ancienne ministre, et donc candidate aux élections européennes. Alors, en Europe, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est vraiment flagrant, qui éclabousse le champ politique, social, culturel et économique contemporain. C'est une poussée de xénophobie hors pair. On le voit en Hongrie, on le voit en Italie, on le voit même en France. On érige des murs, si c'est pas des murs en briques, ce sont des murs avec des lois, avec des décrets. Face à cette xénophobie, et d'ailleurs même la France n'a pas échappé à ça, puisque le gouvernement a préparé un projet sur l'immigration qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Comment faire et comment aborder? Comment faire en sorte que cette xénophobie qui n'est plus rampante, qui est triomphante, puisse diminuer et régresser?
Vous savez, je pense que d'abord, la première chose, quand on est membre de partis qui ne sont pas les extrêmes, hein, ni l'extrême droite ni l'extrême gauche, c'est d'abord de solidifier notre pilier républicain. Et j'étais assez choquée par ce projet de loi immigration qui a été proposé par le gouvernement en décembre 2023. Je me suis d'ailleurs exprimée dans Le Monde parce que je trouvais que ce texte qui prévoyait la préférence nationale, c'est-à-dire qui disait que pour les immigrés en situation régulière, il y aurait moins de droits, moins d'allocations que pour les Français dits de souche. Ne serait-ce que cette expression est choquante, parce que on ne doit pas distinguer selon les origines.
Si vous êtes en France, c'est une machine à fabriquer du clandestin.
C'est une machine à fabriquer
de la précarité.
Et c'est surtout une machine à fabriquer de la discrimination. Pourquoi ? Ça veut dire, vous arrivez en France, vous êtes en situation régulière. Et là, on va quand même vous demander vos papiers et on va vous dire, vous n'avez pas le droit aux allocations familiales parce que vous êtes étranger. C'est tout à fait une violation de nos principes républicains. On ne doit connaître en France que votre situation légale. Alors, peu importe votre
pour,
origine.
Pour balayer cet argument-là, ils ont sorti l'histoire du RSA. En disant, vous voyez, le RSA, il faut attendre 3 ans pour qu'il soit... mais le RSA, c'est un décret. Il n'est pas en relation avec le travail.
Surtout...
Et là, c'était renié sur la conquête sociale que les prestations dépendaient de la contribution à l'économie du pays. C'est ça la gravité de cette loi.
Mais je vais vous dire, ça va même beaucoup plus loin que ça. Ça veut dire que le fait d'être en situation régulière ne fait pas de vous un citoyen comme les autres. Ce qui est une mise en cause profonde de tout notre système juridique. C'est d'ailleurs pour ça que le Conseil constitutionnel l'a censuré.
Ça fait de vous un citoyen en sursis.
Il n'y a pas de sous-citoyen en France. Soit vous êtes en conformité avec les règles, soit vous ne l'êtes pas. Point. C'est la seule chose qui compte, quelle que soit votre origine. À partir du moment où vous êtes accueilli et que vous avez, par exemple, le droit d'asile ou que vous êtes en conformité avec la législation sur l'immigration, vous avez les mêmes droits que les autres. Et je crois que quand on accepte ce type de texte, on donne à manger au Rassemblement national, on donne à manger à toutes les haines. Et comme disait Churchill, quand on donne à manger aux crocodiles en espérant qu'on sera le dernier à être mangé, on finit par être dévoré tout cru. Donc nous disons, la République, on ne transige pas avec l'égalité des droits, on ne transige pas avec la lutte contre les discriminations. La préférence nationale est contraire aux valeurs de la République. C'est ce que j'ai dit dans Le Monde au mois de décembre. Le Conseil constitutionnel a censuré le texte. Et aujourd'hui, sur les valeurs, nous ne transigerons pas avec la liste Europe Territoire Écologie et tous les collectifs citoyens qui se trouvent
justement à propos
sur
de liste. La liste du Rassemblement national caracole en tête au niveau des sondages. Donc même si c'est exagéré, elle est toujours en tête. C'est la préférence nationale qui a imbibé, imprégné l'ensemble du discours politique depuis maintenant 20 ans, 30
mais
ans.
Mais vous avez raison de le dire, c'est même pire que la préférence nationale. Ce qui imbibe les discours que vous trouvez partout aujourd'hui à l'extrême droite et à l'extrême gauche, c'est l'idée qu'on va vous distinguer selon vos origines. Quand Jean-Luc Mélenchon discrimine en fonction des origines et fait des catégories en fonction des religions, il discrimine. Quand Marine Le Pen discrimine aussi en fonction des origines, elle attire l'attention sur la différence. Moi, je ne nie pas que nous soyons différents, les hommes, les femmes, en fonction de notre lieu de naissance, de notre éducation, de notre religion. Mais je dis, toutes les différences doivent être considérées comme des raisons d'aider, mais pas comme des raisons de discriminer. Quand on attire l'attention sur la différence, on discrimine sur la différence. On doit considérer que les droits des citoyens sont les mêmes. On doit aider ceux qui ont moins, mais on ne doit surtout pas distinguer selon les origines. Ou alors, à ce moment-là, c'est la porte ouverte à toutes les discriminations.
On voit très bien ce qui alimente la puissance du Rassemblement national. C'est d'abord l'histoire de l'immigration, des réfugiés politiques, climatiques, économiques. Et puis, tous ces débats sur la guerre de civilisation avec l'islam. Comment faire pour endiguer la progression de tous ces partis en Europe qui font, qui rentabilisent leur action, leur pouvoir sur la base justement de l'immigration et du conflit avec l'islam. Tout récemment, donc, la Grande-Bretagne vient de prendre une décision, c'est de mettre tous les gens qui n'ont pas eu leur statut de réfugié, de les envoyer au Rwanda.
Je pense qu'il y a une règle assez simple. À partir du moment où vous êtes en France accueilli au titre du droit d'asile et où vous êtes accueilli au titre de l'immigration économique, eh bien, vous êtes considéré comme un Français, vous êtes un Français. Vous devez avoir exactement les mêmes droits. En revanche, si vous n'êtes pas en situation régulière, à ce moment-là, c'est légitime que vous soyez reconduit à la frontière. Parce que il faut bien qu'il y ait un cadre légal et que les règles soient respectées.
Si vous êtes en situation régulière parce que vous avez échappé à l'horreur d'une répression, de torture.
Ah, mais alors là, vous êtes en asile. Alors là, c'est le droit d'asile.
Un tsunami, un tremblement de terre, réfugié climatique, etc. Parce qu'il y a quand même un vide juridique qui concerne l'ensemble de ces réfugiés. Je veux dire que ce vide juridique, il est exploité pour avoir telle ou telle attitude. Et la récente décision de la Grande-Bretagne en est une. C'est exploiter un vide juridique. Alors, est-ce qu'il ne faut pas construire une solution juridique au niveau européen pour éviter ce genre de choses?
Mais vous savez, en France, nous avons un droit qui est clair. Vous êtes soit accueilli au titre de l'asile politique, parce que vous habitez dans un pays où c'est une dictature et vous êtes poursuivi, donc on vous accueille et on vous protège. Si vous n'êtes pas dans le cadre de l'asile politique, vous êtes accueilli dans l'autre cadre, donc le rapprochement familial, éventuellement des raisons d'immigration économique. Et si vous êtes dans les clous, si je puis dire, nous, on est très clair. Soit vous êtes en situation régulière, soit vous ne l'êtes pas. Ça, c'est le droit français. Maintenant, ce qui se passe au niveau européen, qui est effectivement grave, c'est qu'il y a des pays qui, dans l'espace Schengen, ne jouent pas le jeu de vérifier les conditions d'entrée à l'intérieur de l'Europe. Et c'est là que nous proposons une solution, qui est une solution où les pays doivent se partager, en particulier les clandestins qui meurent ou qui tentent de traverser la mer pour venir s'installer en Europe. Il faut les secourir, il n'est pas question de laisser mourir quelqu'un qui se noie, ça c'est le droit qui est intangible, donc on protège, c'est le sauvetage en mer. Et puis nous proposons une règle de répartition entre les pays européens. Chacun doit prendre sa part. Ça doit faire l'objet d'un accord. Il ne s'agit pas que ce soit...
Parce que quand on voit la démographie européenne qui est en train de dégringoler, on est entre 0,7-0,8 enfants jusqu'à 1,2 enfants au niveau de l'Europe, c'est pas plus mal quand même que d'avoir, l'immigration aussi permet de rebooster une démographie, de développer l'économie, parce que ce sont des travailleurs dans
absolument.
Métiers en tension. Donc pourquoi les gens n'acceptent pas ça?
Je pense que les gens ne l'acceptent pas, parce que jusqu'à présent, on a donné le sentiment, à tort, qu'on ne pouvait rien maîtriser. J'ai toujours entendu dire, nos aînés dire, « Oh, de toute façon, l'immigration, c'est pas maîtrisable. » Moi, je comprends les lecteurs, y compris celui qui vient d'arriver en France, hein, qui est en situation régulière, qui travaille dur, qui paye ses impôts. Moi, je comprends les lecteurs qui se disent « Oh, je vois pas pourquoi on peut rien maîtriser du tout. » Il y a un moment donné où la responsabilité d'un homme politique et d'une femme politique, c'est de se donner les moyens de faire appliquer sa volonté qui elle-même procède d'une élection. Est-ce qu'on peut aujourd'hui maîtriser nos frontières? On peut le faire dans le cadre européen, oui. C'est pour ça que l'Europe a un sens. On peut le faire à l'extérieur des frontières de l'Europe et on doit le faire à l'intérieur de l'espace Schengen. Mais pour ça, il faut se mettre autour d'une table. Et il faut dire, pour nous la France, nous, le droit d'asile, on protège. Tout ce qui n'est pas du droit d'asile, on se met d'accord. On a des besoins économiques, c'est vrai. On peut mettre en place une politique d'immigration choisie en termes économiques. Et puis, on travaille sur...
Est-ce qu'il faut réformer Frontex? Est-ce qu'il faut faire un Schengen 2? Est-ce qu'il faut... est-ce que les structures de gouvernance qu'on a héritées d'après la guerre et qu'on a construites au fil du temps, en particulier avec Robert Schuman et la construction de l'Europe, est-ce qu'il faut revoir ces gouvernances, en créer d'autres ou les parfaire? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Il y a quelque chose de très concret que nous proposons, c'est qu'il faut, à l'intérieur de l'espace Schengen, il faut créer une police aux frontières qui soit capable précisément d'accueillir, de faire des demandes d'asile à ceux qui veulent l'asile et de refuser ceux qui n'ont pas le droit de rentrer sur le territoire national. Ça, c'est fondamental. Donc une police aux frontières intérieures de l'espace Schengen, mais qui soit aussi capable de raccompagner aux frontières ou de traiter avec humanité ceux qui n'ont pas de titre de séjour. Première proposition. Deuxième proposition, oui, Frontex à l'extérieur de l'espace Schengen, il faut absolument la doter de moyens, parce que pour le moment, ils sont sous-dotés, et puis c'est pas bien géré. Et puis, il faut revoir aussi les accords avec ce qu'on appelle les pays tiers qui s'occupent précisément aux bornes de l'Europe, que ce soit la Turquie, que ce soit la Tunisie, qui s'occupent de faire des filtrages dans des conditions particulièrement inhumaines. Donc ça, les relations avec ces pays-là doivent faire l'objet d'une réévaluation à l'aune du respect des droits de l'homme et à l'aune du respect des droits de l'enfant.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins revient dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan.
Juliette Méadel, notre grand témoin d'aujourd'hui, candidate aux élections européennes sur la liste des radicaux de gauche, une liste pas comme les autres, porte-parole, et dont Guillaume Lacroix est la tête de liste. Alors, les radicaux de gauche, c'est la France éternelle, c'est la France qui n'est pas raciste, c'est la France qui rassemble, c'est la France des valeurs, comme vous l'avez expliqué, et vous avez un projet politique, et ce projet politique, il est, bien sûr, il y a plusieurs thèmes, mais un des thèmes, une des thématiques qui vous structure et à laquelle vous êtes attaché, c'est le projet sur l'écologie. C'est-à-dire, vous pensez que l'écologie aujourd'hui n'est pas entendue, n'est pas acceptée, n'est mal perçue. On a l'impression que l'écologie, c'est un truc d'intellectuel. On a l'impression que c'est un truc en plus. Quel est votre projet politique du point de vue de l'environnement? Quoi sur le réchauffement climatique? Quoi sur les biens communs? Quoi sur les économies, sur la sobriété? Racontez-nous un peu le projet politique de la liste des radicaux de gauche au niveau des européennes du 9 juin.
D'abord, je voudrais dire une chose importante, c'est que, comme le GIEC le dit, la situation est grave, on ne va pas se mentir.
Alors le GIEC, c'est le...
qui est le groupe, d'experts sur le climat, qui rend international, qui rend des avis régulièrement, et qui nous dit que là, par exemple, nous avons épuisé les ressources naturelles de la planète, qui nous dit que le réchauffement climatique, aujourd'hui, est arrivé à un tel stade qu'on va avoir beaucoup de mal à en ralentir les effets, même si nous atteignons nos objectifs dans les 25 prochaines années, et qu'il faut absolument...
Alors les dégâts, on les voit, les dégâts, c'est l'érosion. Ce qu'on appelle l'érosion, la salinisation, donc c'est les côtes qui sont complètement ratiboisées, c'est l'élévation du niveau de la mer.
Mais c'est ça, c'est surtout la chaleur
c'est
qui bouleverse le climat.
Ce sont des villes qui disparaissent, des villes côtières, des îles qui disparaissent. On le voit dès maintenant. Dubaï, on a vu Dubaï sous les eaux, c'est incroyable.
Le dérèglement climatique, en réalité, est un des effets du réchauffement. C'est-à-dire que la fonte des neiges, la fonte des eaux, entraîne des inondations et provoque des pics de chaleur, mais des inondations,
la fonte des
mais aussi.
Glaciers au Groenland, par
et
exemple.
Aussi, par, ce qui explique, et aussi, le dérèglement, c'est aussi de la neige dans les Vosges en ce moment, alors qu'on est au printemps. Ce dérèglement-là a des conséquences graves, des conséquences économiques. Il y aura des migrations climatiques. Et donc, il faut absolument lutter le mieux possible et le plus rapidement possible. Alors, la première chose que je veux dire ici, c'est que la fin du monde n'est pas proche. Première chose, je veux lutter de toutes mes forces contre l'éco-anxiété, la désespérance à cause de la soi-disant catastrophe qui va nous tomber dessus demain. On peut toujours tenter d'éviter le pire et le pire n'est jamais certain. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a plein de solutions qui sont sur la table. C'est nos dirigeants politiques qui doivent avoir le courage de prendre ces décisions. Nous, ce que nous disons, c'est que c'est certain que la croissance économique à l'ancienne, c'est plus possible. On ne peut plus continuer à produire sans limite, à épuiser la planète sans fin, et le capitalisme excessif qui consiste à exploiter toujours plus pour toujours plus de richesses, il faut que ça s'arrête. De toute façon, c'est pas sain, c'est pas bon, et ça rend pas forcément les gens plus heureux. Comment on fait maintenant? Nous proposons d'avoir un nouveau modèle, c'est le modèle de la sobriété. Qu'est-ce que c'est la sobriété? Si vous n'avez pas besoin de prendre l'avion, vous prenez pas l'avion. Si vous n'avez pas absolument besoin de prendre votre voiture, si vous en avez une, vous ne prenez pas votre voiture. Et vous vivez un peu différemment, pas forcément moins bien. Le deuxième point, c'est qu'il faut investir dans l'innovation. Il faut innover pour produire autrement. Il va falloir trouver d'autres façons de se déplacer. Plus de rails, plus d'électrique, et peut-être d'autres solutions que l'électrique. Peut-être qu'il faudra aller chercher du côté des énergies renouvelables et investir davantage. Nous ne sommes pas contre le nucléaire, nous. Mais nous considérons qu'il faut aussi investir deux fois plus dans les énergies renouvelables. Et puis, il faut inventer une autre façon de vivre. Regardez, pendant le Covid, nous avons tous été obligés de rester à la maison. On a développé les échanges par visio, les échanges par téléphone. C'est pas forcément la solution, hein. Mais peut-être que dans nos façons de travailler, on peut se dire que pour ceux qui peuvent, pas tous, mais pour ceux qui peuvent, travailler à distance un jour par semaine, deux jours par semaine, c'est aussi une façon d'éviter des déplacements inutiles. Et puis, il y a tout le volet qui est aujourd'hui indispensable et auquel nous tenons beaucoup, de l'interdiction de tous les polluants éternels, c'est-à-dire toutes ces matières industrielles qui se trouvent aujourd'hui dans les poêles, dans le téflon, c'est un exemple, hein, qui sont toxiques. Disons-nous bien que plus on est écologique, plus on protège la santé. L'enjeu de la pollution, l'enjeu de l'industrie, l'enjeu du capitalisme sans frein, c'est aussi la santé publique. Et là-dessus, il faut une Europe forte.
L'Europe, récemment, a autorisé les pesticides en Espagne.
Hélas, l'Europe est beaucoup trop lente. D'abord, elle ne résiste pas assez aux lobbies.
Les désherbants.
Le glyphosate, les désherbants. Alors moi, je ne dis pas qu'il faut du jour au lendemain tout changer, mais enfin, ça fait quand même 5 ans qu'on sait qu'il faut arrêter ou limiter le recours au glyphosate, qu'il faut encourager l'agriculture biologique. Nous avons sur notre liste, en bonne position, un agriculteur qui vient des montagnes corses, qui sait, lui, ce que ça veut dire que de travailler avec moins de pesticides dans des conditions difficiles et qui propose un nouveau modèle agricole. Vous voyez, tout ça, c'est pas des idées qui vont nous rendre plus malheureux demain, au contraire. Mais il faut juste que nous engagions le changement, il faut surtout que les responsables politiques au niveau national et européen aillent plus vite, prennent plus de prennent des décisions plus courageuses et cessent de céder au poids systématique des lobbies.
Alors, on a l'impression quand même que les agriculteurs en France, que les consommateurs dans les supermarchés, etc., voient les choses d'une certaine façon, mais on a le sentiment que l'Europe, c'est un gros machin qui vient contrecarrer, qui est à contresens de, en tout cas, des espoirs, des volontés ou du quotidien des Français. On a vu récemment dans les manifestations des agriculteurs, on voit ce tête-à-tête, ce conflit qui perdure.
Mais c'est vrai que, c'est vrai. Alors d'abord, il faut quand même dire que la politique agricole commune, quand même, c'est énormément d'aide publique aux agriculteurs français. Hein. Faut pas non plus tout jeter.
La plupart en vivent. Hein.
Nous sommes bien bénéficiaires, hein, nous autres Français, la PAC. Maintenant, il est certain qu'en termes de règles, les règles, l'Europe s'est bureaucratisée et ça devient invivable. Et il y a même des effets en termes de commerce international qui sont un peu absurdes, où on se fait concurrencer par des productions extra-européennes qui nous appauvrissent. Donc, il y a une absurdité. Il faut remettre de la cohérence, de la simplicité dans ces règles-là. C'est pour ça que je vous disais, et vous aviez raison de le souligner en introduction, l'Europe s'est un peu diluée. Elle a perdu le contact avec la réalité. Et donc le projet de notre liste, c'est de l'ancrer à nouveau dans la vie quotidienne des Français.
Alors vous avez donc ce gros projet écologique, on l'aura compris, mais vous voulez aussi parler à la jeunesse. Et vous prenez une politique de l'enfance heureuse. Donc vous dénoncez cette politique de criminalisation des jeunes, des enfants. Là, on n'arrête pas de parler des couvre-feux. Aujourd'hui, le couvre-feu est à la mode. C'est quoi cette société où on commence à avoir peur des enfants?
Mais c'est un drame.
On a peur des enfants.
L'échec profond de nos politiques publiques depuis plus de 30 ans, c'est qu'on ne sait pas s'occuper de la jeunesse. On ne sait pas s'occuper des enfants, on ne sait pas s'occuper de la jeunesse au niveau politique. Et donc ça a donné sans arrêt des grandes déclarations, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, mais je vais vous donner un exemple. Il y a aujourd'hui en France 2 enfants qui meurent chaque jour sous les coups de leurs parents. La violence à l'égard des enfants, dans la famille, ça existe. Il y a aussi plus d'une quarantaine d'enfants violés dans la sphère familiale par jour. Vous voyez, comment vous voulez bien grandir quand vous vivez dans ces conditions-là? Et dites-vous qu'ensuite, quand vous allez regarder le parcours des délinquants et des mineurs délinquants, vous en avez à peu près 1 sur 2 de mineurs délinquants qui vient de ces situations très douloureuses et en particulier de ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance. Qu'est-ce que ça dit tout ça? Occupez-vous bien des enfants et des jeunes, faites-les bien grandir, vérifiez, aidons les familles à se préserver, aidons les familles en difficulté dans la précarité sociale, luttons contre les parents violents qui ne peuvent pas ou plus élever leurs enfants, protégeons l'enfance et nous aurons une société beaucoup plus apaisée. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point, c'est que criminaliser, pénaliser sans arrêt l'enfance ou la jeunesse délinquante, ça n'est pas une solution. Bien sûr qu'il faut sanctionner. Vous avez fait une bêtise, vous êtes sanctionné. C'est indispensable, les limites. Attention. Mais il ne faut pas faire que ça. Lever ce qu'on appelle l'excuse de minorité, ce qui veut dire en gros essayer de mettre plus facilement en prison des enfants, ou des jeunes, ou des adolescents plus exactement, puisque ce sont des jeunes adolescents dont on parle, est-ce que c'est une solution quand on sait que la prison c'est l'école de la récidive? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sanctionner. Ça veut dire qu'il faut inventer d'autres solutions éducatives et mettre des moyens.
Ça veut dire que le gouvernement aujourd'hui, progressivement, se coupe de sa jeunesse.
Le gouvernement cherche des solutions dans tous les sens. On ne peut pas lui en vouloir. Hein. Et d'ailleurs, Gabriel Attal a raison de chercher. On peut quand même se dire que ça fait aujourd'hui plus de 7 ans que cette majorité-là est au pouvoir et qu'elle s'est un peu tard pour s'occuper de sa jeunesse. Et que pour s'occuper bien de sa jeunesse, il faut commencer par s'occuper bien des enfants. Donc nous, nous proposons une politique de l'enfant heureux. Ça veut dire que l'Europe doit adopter par une directive des objectifs pour veiller d'abord à la lutte contre les violences intrafamiliales, ensuite à l'éducation nationale. Il faut des médecins de santé scolaire, il faut des psychologues dans l'école. Et puis, il importe également, et c'est fondamental, de lutter intelligemment contre la violence des jeunes avec des solutions éducatives, peut-être des internats bien organisés et surtout des projets pour réinsérer les jeunes délinquants qui sortent de prison et pour éviter qu'ils ne tombent dans la récidive.
En tout cas, ne pas se couper de sa jeunesse, ne pas en faire un épouvantail, ne pas avoir peur de sa jeunesse.
Et prévenir.
En tout cas, merci Juliette Méadel pour ce grand témoin exceptionnel.
Vous.
Je rappelle, liste des radicaux de gauche, liste européenne, hein, Guillaume Lacroix en tête de liste.
Avec
vous,
tous les
en
collectifs que nous avons cités, Europe, Territoire, Écologie.
Et on aura l'occasion de vous recevoir régulièrement sur l'antenne en
merci
vous souhaitant
vous.
Bonne chance et merci d'être venu.
Merci de votre invitation,
merci. Master.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.